Merci, bonjour tout le monde, bonjour Christian, bonjour Juliette, je suis ravie d'être avec vous, la maison des lanceurs d'alerte, où vous allez bien nous expliquer déjà ce que vous faites et puis surtout les difficultés aujourd'hui à être lanceur d'alerte, ce que ça implique dans je dirais, les discriminations ou les pressions des employeurs. Pour vous aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est important de protéger les lanceurs d'alerte?
Alors, je ne sais pas si c'est Juliette qui a envie de commencer ou si c'est moi. Je peux dire quelques éléments. C'est moi, d'accord. Alors, bon, tout simplement parce que c'est important de les protéger, parce que les lanceurs d'alerte sont devenus aujourd'hui indispensables au bon fonctionnement de la société. Un lanceur d'alerte, il va dénoncer des abus, il va révéler des scandales, des détournements d'argent, il va signaler des graves dysfonctionnements qui concernent l'ensemble de la société. Et souvent, et la plupart du temps, je dirais, 99,9%. Juliette nous en dira plus tout à l'heure sur la manière dont on identifie les lanceurs d'alerte et puis ceux qui peuvent paraître plus fantaisistes. Mais souvent, et la plupart du temps, les lanceurs d'alerte, ils lancent des alertes dans le souci de préserver l'intérêt général, donc de nous préserver. Et si c'est important de les soutenir, eh bien c'est tout simplement parce que c'était en 2016, il y a une loi qui s'appelle la loi Sapin 2, qui était pionnière en Europe. Cette loi Sapin 2, elle faisait que la France avait pris de l'avance par rapport aux autres pays européens. En 2019, 3 ans après, il y a eu cette directive européenne, et cette directive européenne, on doit aujourd'hui la transposer. On devait le faire d'ici au mois d'octobre. C'était la règle. Je pense si elle a évolué, Juliette vous le dira, parce qu'elle est plus au fait de ce type d'affaires, puisque moi, à la Maison des lanceurs d'alerte, je suis un des administrateurs, je suis membre du bureau et je suis le trésorier. Mais celle qui est vraiment opérationnelle, c'est Juliette. Donc elle est au quotidien sur cette activité, même si aujourd'hui elle est devenue avocate.
Peut-être intérêt important de dire oui qu'une directive est un acte législatif contraignant. C'est important de le dire. C'est pas juste un rapport ou une résolution qui n'est pas contraignant, par exemple, au Parlement européen. Mais Juliette, je te laisse la parole.
Oui, tout à fait. Sur la directive, effectivement, de toute façon, il faudra bien qu'elle rentre dans ce qu'on appelle l'ordonnancement juridique national, d'une manière ou d'une autre. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Comme l'a précisé Christian, donc, je suis avocate et j'interviens auprès de la Maison des lanceurs d'alerte, notamment sur la gestion des dossiers et les aspects juridiques. Je ne sais pas si je présente un petit peu les activités de la maison maintenant, si c'est opportun. Donc, l'association qui a aujourd'hui plus de 2 ans d'existence, qui a été fondée en novembre 2018 à l'appel de 17 organisations, syndicats et personnes physiques spécialisées dans les alertes éthiques et dans la protection effectivement des lanceurs d'alerte, à aujourd'hui, c'est un certain âge et on a reçu beaucoup de dossiers à la permanence. Aujourd'hui, on accompagne plus de 300 personnes, presque 400. Les modalités d'intervention de la Maison des lanceurs d'alerte sont plurielles, puisque d'une part, il y a un accompagnement juridique des personnes qui nous sollicitent pour fournir des conseils juridiques. Qui peuvent aller de simples conseils oraux à l'instruction d'un dossier pour derrière pouvoir intervenir devant les juridictions pour protéger le lanceur d'alerte, faire valoir ses droits. Ça peut être aussi aider les personnes à traiter, à signaler les alertes en saisissant des autorités, la CNIL, le parquet national financier. Enfin, voilà, il y a toute une palette d'outils juridiques qui sont mis à disposition par la Maison des lanceurs d'alerte. Et cette dernière est amenée à intervenir de plus en plus directement dans les procédures juridiques pour protéger ces derniers qui sont victimes de représailles pour avoir dénoncé des faits dans l'intérêt général. Donc ça, c'est la première mission de la Maison des lanceurs d'alerte. Et cet appui juridique derrière donne lieu à d'autres aides individuelles peuvent être médiatiques, puisqu'on peut soutenir les lanceurs d'alerte médiatiquement ou en les mettant en lien, par exemple, avec des journalistes d'investigation pour que les alertes soient traitées et que les faits soient révélés, le cas échéant, en les aidant à préserver leur anonymat, puisque par le secret des sources, ils sont protégés. Mais ça, Christian, qui est aussi par ailleurs journaliste, enfin, pourra nous en parler. Et puis, il y a aussi une aide technique par le biais d'outils sécurisés, chiffrés, pour que l'alerte soit protégée, pour que leur identité et les éléments qu'ils veulent révéler soient évidemment conservés vis-à-vis de tiers. Donc, on utilise des outils en fonction des difficultés, en fonction de la sensibilité des éléments en présence. Voilà. Il y a un accompagnement également qui est fait sur les aspects sociaux, psychologiques. Alors, en fait, il y a un groupe de pairs entre lanceurs d'alerte qui se réunit et qui échange pour solutionner leurs problématiques, trouver des outils, et qui contribue aujourd'hui à faire émerger des bonnes pratiques au sein de cette association. Donc, c'est très intéressant. Et puis, on a aussi un médecin du travail et une psychologue spécialisée sur le harcèlement au travail qui interviennent régulièrement ou en urgence pour solutionner les difficultés des personnes qui sont sollicitées. Donc ça, c'est tout le volet aide individuelle qui comporte l'ensemble de ces éléments-là, mais qui part évidemment de la permanence juridique, parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas lanceur d'alerte. Il y a quand même des conditions aujourd'hui assez strictes, on pourra y revenir lié à la loi Sapin 2. Et donc, il y a ce volet-là. Il y a un autre volet, une autre modalité d'action de la maison des lanceurs d'alerte, qui est la dimension plaidoyer, pour faire changer la loi dans l'intérêt des lanceurs d'alerte, pour répondre, pour que le législateur puisse répondre du mieux possible à l'enjeu de sa protection. Et donc aujourd'hui, on pourra en rediscuter, c'est autour de la directive. Et enfin, troisième modalité qui reste à développer, qui est l'aspect formation pour diffuser une culture de l'alerte au sein des différentes parties prenantes, que ce soit les acteurs de la société civile, mais également, le cas échéant, les collectivités et les entreprises, pour qu'elles puissent elles-mêmes comprendre que c'est dans leur intérêt qu'il faut traiter les alertes et protéger les lanceurs d'alerte et non pas les victimiser.
C'est extrêmement intéressant. Il y a plusieurs points sur lesquels il serait bien de revenir. C'est que, comme tu disais, Juliette, aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se dire lanceur d'alerte comme il le veut. Il y a des conditions particulières, et ça, je pense que c'est important de revenir dessus. Et je trouvais aussi très important le fait des sources. Et là, ben, je me tourne vers Christian, parce que je crois que l'anonymat, en tout cas, le fait de pouvoir garder un anonymat quand on lance une alerte et avoir votre aide pour que ça soit comme ça et peut-être avoir moins de répression derrière, ça peut permettre aussi à ceux qui n'osent pas de lancer des alertes et ce que ce soit, comme tu le disais Christian tout à l'heure, dans l'intérêt général.
Ben, oui, c'est important. Ce qui est important, c'est que on a appelé notre ONG la maison des lanceurs d'alerte, pas la maison des alertes. Donc, les alertes nous paraissent fondamentales à la vie démocratique, mais on considère que plus les lanceurs d'alerte seront protégés, plus les alertes pourront remonter. Et ça, moi, mon expérience de journaliste me parle là-dessus, puisque dans cette profession, on a un souci absolu du secret des sources. À partir du moment où on garantit à une source le secret, l'information remontera. À partir du moment où on ne peut pas le garantir, c'est pour ça que, par exemple, des journalistes refusent ou effacent des images quand la police veut récupérer les images qui ont été tournées lors d'une manifestation. C'est pour ça qu'il y a une loi qui protège les journalistes. On ne peut pas faire des coups téléphoniques sur les journalistes, en tout cas les exploiter. Donc, je dirais que la protection des lanceurs d'alerte, c'est quelque chose de fondamental pour les alertes. La directive, d'ailleurs, alors pour être reconnu comme lanceur d'alerte, et Juliette en a un petit peu parlé, il faut être de bonne foi. Et c'est tout le travail de la permanence juridique. Il faut respecter la procédure d'alerte sur laquelle on rentrera, et les critères subjectifs créateurs d'insécurité juridique, la nécessité d'être désintéressé et d'avoir une connaissance personnelle des faits révélés sont écartés. Alors nos organisations aujourd'hui considèrent qu'il s'agit d'une avancée, mais la directive doit aller plus loin. La loi Sapin 2, je vous le disais tout à l'heure, nous a fait prendre de l'avance, a fait prendre de l'avance à la France. Aujourd'hui, moi, je considère qu'on est en retard et que la transposition de la directive européenne, c'est une occasion formidable de construire une culture de la responsabilité, également d'améliorer ces dispositifs qui sont encore trop inopérants. Et Juliette pourra être claire là-dessus parce qu'elle y est confrontée tous les jours. Donc, il est urgent qu'une loi ambitieuse de soutien aux lanceurs d'alerte et leurs alertes soient adoptées et appliquées, mais il reste 7 mois. C'est pas beaucoup, parce qu'en face, On nous oppose le secret des affaires, on nous oppose un certain nombre de manœuvres, de diversions pour ne pas aller dans le sens que nous souhaitons, c'est-à-dire une transposition pleine et entière et favorable à l'ensemble. Par exemple, on souhaite que, puisque la directive le dit, tout travailleur doit pouvoir être défendu, accompagné par un représentant du personnel ou un syndicat, ce qu'on appelle un facilitateur. Eh bien, on souhaite que les personnes morales puissent également être prises en compte comme lanceurs d'alerte.
Je suis d'accord et on le voit au Parlement européen aussi, hein, juste pour faire le parallèle, puisque on est aujourd'hui au Parlement européen en visio, mais quand même au Parlement, on a exactement les mêmes problématiques. Dès que dans un texte, on veut mettre protection des lanceurs d'alerte, on nous oppose tout de suite le secret des affaires. Et c'est exactement la même difficulté. Nous, c'est vrai qu'on se bat et il y avait récemment encore un débat en commission sur la protection des lanceurs d'alerte. Alors évidemment, on se bat pour Assange, on se bat pour Snowden, on se bat pour beaucoup, beaucoup de gens. Et derrière, on se rend compte que finalement, que ce soit les États ou les entreprises, elles n'ont pas vraiment envie qu'on aille raconter un peu ce qui s'y passe, parce que j'imagine quand même que les lanceurs d'alerte sont des personnes de bonne foi. Elles n'ont pas envie d'avoir de la répression juste pour faire plaisir. Je ne pense pas que vous ayez déjà rencontré des lanceurs d'alerte qui l'ont fait juste par plaisir. Mais Juliette, je te laisse la parole.
Merci. Je voudrais revenir, c'est intéressant ce que tu as dit. Je crois qu'on peut se tutoyer, je me permets. On se bat pour Assange, on se bat pour Snowden, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant auprès de cette association, au sein de la permanence, on se rend compte qu'il y a énormément d'invisibles. Et en fait, le lanceur d'alerte n'est pas justement... Il y a effectivement la figure médiatique d'Assange, Snowden, Chelsea Manning. On a en France des personnes comme Irène Frachon, comme Antoine Deltour, qui d'ailleurs est membre de notre conseil d'administration. Mais ce qui est clair, c'est que le lanceur d'alerte, c'est notre voisin, c'est notre collègue, c'est vraiment quelqu'un qui agit dans l'ombre, et pourtant dans l'intérêt même de sa société, pour que finalement son image ne soit pas salie si derrière il y avait une procédure judiciaire. Et donc, ça permet aussi d'un peu de démystifier les choses, et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait un cadre protecteur particulièrement fort, parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus qu'on pense de personnes qui sont lanceurs d'alerte, en tout cas qui rentrent dans ces critères juridiques-là. Et il y a vraiment un enjeu, Christian le disait tout à l'heure, d'améliorer la société démocratique dans laquelle on vit, à protéger les lanceurs d'alerte, parce que c'est vraiment des vigies de cette démocratie, ils agissent vraiment dans le bien commun. Et d'ailleurs, la plupart des personnes ne savent même pas qu'elles disposent d'un régime protecteur lorsqu'elles sont victimes et qu'elles font l'objet de mesures de représailles pour avoir simplement agi, fait un devoir citoyen. Donc, c'est vraiment important. Je ne sais pas si je poursuis un peu sur le cadre juridique ou pas. OK. Donc, aujourd'hui, comme l'a rappelé Christian très justement, et comme tu l'as rappelé aussi Anne-Sophie, on a une loi qui s'appelle la loi Sapin 2, qui existe depuis, qui est entrée en vigueur en début 2017 et qui vise de façon à créer un régime général pour protéger les lanceurs d'alerte. Avant, il y avait des dispositifs sectoriels. Et donc, on a eu cet apport par la loi Sapin 2. Christian a rappelé les conditions, avoir personnellement connaissance des faits, la bonne foi, le caractère désintéressé. Et il y a notamment un autre élément qui est à prendre en considération, qui est lié à l'article 8 de cette loi, qui dispose qu'il faut un système à palier pour lancer l'alerte. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dès lors qu'on lance l'alerte au sein d'une entreprise, en tant que salarié ou en tant qu'agent de la fonction publique, par exemple, eh bien, on doit respecter un système de palier, d'abord signalé en interne, auprès de son supérieur hiérarchique, direct, indirect, d'un comité déontologique ou d'un référent déontologique, et sans réponse dans un délai raisonnable, sachant que la jurisprudence n'a pas précisé quel était ce délai raisonnable. On peut imaginer que c'est en fonction des faits d'espèce. Si on est sur un mineur mis en danger, évidemment que le délai est différent, et de toute façon, on peut sauter les étapes, puisqu'il y a une clause d'exclusion dans l'article 8 qui fait valoir que quand on est face à un danger grave ou imminent, on n'a pas besoin de respecter ces étapes-là. Et donc, quand on est à la première étape, sans réponse dans un délai raisonnable, on peut ensuite saisir les autorités compétentes, autorités qui ne sont pas précisées, ça peut être des autorités ordinales, autorités administratives, autorités judiciaires. Voilà. Et ensuite, à nouveau, sans réponse dans un délai de 3 mois, on a la possibilité de lancer l'alerte auprès du public. Donc ça, c'est une procédure assez contraignante parce que la plupart des lanceurs d'alerte qui sont accompagnés par la maison des lanceurs d'alerte aujourd'hui, et donc on parle de, en connaissance de cause, ont lancé l'alerte sur des irrégularités au sein de leur structure. Donc, c'est compliqué d'aller voir les personnes souvent mises en cause et d'aller témoigner de faits illicites auprès de ces dernières. Nécessairement, ça les expose derrière à des représailles. En tout cas, dans la pratique, on le constate presque systématiquement, des pratiques de mise au placard, de faire en sorte d'étouffer l'alerte, de sanctions déguisées. Et quand c'est des alertes sérieuses, ça va vraiment jusqu'au licenciement. Donc, c'est très compliqué. Et donc, ça, c'est le cadre juridique de la loi Sapin 2 qui permet, dès lors qu'on remplit toutes ces conditions, de bénéficier de certaines garanties, la nullité des représailles, le droit à un référé à prud'homal pour être réintégré sur son poste lorsqu'on a été licencié suite à une alerte. Un éventail de dispositifs protecteurs, mais dans la pratique, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air et qu'il y a aussi un besoin de former même les acteurs du droit parce qu'on a des formations qui ne connaissent pas encore nécessairement cette loi Sapin 2. Et donc, Christian en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, un des grands enjeux, c'est la transposition de la directive en droit français parce que cette dernière complémente la loi Sapin 2, ou en tout cas permettrait de l'améliorer. Et en fait, le positionnement de la maison des lanceurs d'alerte, c'est de conserver des acquis qui sont intéressants liés à la loi Sapin 2 et en même temps de transposer la directive et donc d'avoir une transposition maximale qui permettrait donc de garantir un régime très très protecteur des lanceurs d'alerte. Donc c'est un enjeu fort.
Et moi, comme syndicaliste, je pense que c'est très important, dans ce que l'on souhaite, de bien considérer cette notion de portage d'alerte. Parce qu'à la fois, elle protège les lanceurs d'alerte, elle évite d'exposer des travailleurs fragilisés ou isolés, mais à partir du moment où c'est un syndicat, une ONG qui va porter cette alerte, eh bien, il y a beaucoup plus de protections qui permettent à l'alerte d'avancer. Parce que, effectivement, on en parlait tout à l'heure, il y a cette opposition alerte et secret des affaires. Le secret des affaires, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, c'est un recul de l'information citoyenne. Je pense que ce n'est pas à vous qu'on va le dire, c'est un recul de l'information citoyenne sur l'activité des entreprises et sur ce qu'elles font qui est contraire à la loi. C'est un recul si on n'a pas accès à des fausses factures, c'est un recul si on n'a pas accès à des dossiers qui permettent de mettre en lumière le travail des enfants dans des pays en développement. C'est un recul si on ne peut pas accéder, journaliste ou lanceur d'alerte, à des documents administratifs. Donc notre ambition avec cette transposition en France, elle s'appuie aussi beaucoup sur un document dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le fameux rapport de Sylvain Wasserman. C'est une résolution du Conseil de l'Europe qui date de 2019 et qui s'appelle la résolution 2300. Et pour les curieux, allez la voir et je dirais elle sera encore plus parlante que tout ce que nous pourrons dire autour d'un micro.
Juliette, ma question, parce que je pense que c'est important, tout à l'heure tu parlais de l'article 8, si j'ai bien compris, dans le cadre d'urgence, c'est ce que je comprends. Est-ce que par exemple, comme on l'a vu dans les EHPAD avec la crise du Covid, on a eu beaucoup de soignants qui ont porté l'alerte de ce qui s'y passait? Nous, avec notre grève, on a aussi porté une alerte. Est-ce que dans ces cadres-là, les personnes qui portent l'alerte, les soignants qui portent l'alerte, sans pour autant respecter toutes les cases et toute la, je dirais, les démarches du lanceur d'alerte, est-ce que dans ce cas-là précis, quand on parle de santé, les soignants peuvent être considérés comme des lanceurs d'alerte?
Je comprends bien la question. Donc, en fait, c'est un peu compliqué de répondre de façon générale parce que l'appréciation des critères, en tout cas de la loi Sapin 2, donc pour être reconnu devant une juridiction en tant que lanceur d'alerte, parce qu'après, on peut aussi avoir une vision extensive de la définition plus engagée, plus militante, et effectivement, voir au-delà des critères et des paliers. Mais en tout cas, quand on veut être reconnu devant une juridiction, il faut nécessairement et strictement répondre aux critères. Donc, c'est un peu compliqué de répondre comme ça. Néanmoins, pour donner une idée, je pense qu'en fait, les alertes, il y a des alertes collectives, il y a des alertes qui peuvent même être portées par des personnalités politiques. Par contre, c'est pas parce qu'il existe des alertes portées aussi par des syndicats, par exemple, par des associations, qu'elles ont pour autant un statut de lanceur d'alerte. Alors, dans le cadre de la directive, on essaye de pousser pour que les personnes morales puissent, quand elles sont facilitatrices par exemple, puissent bénéficier d'une protection. C'est-à-dire que lorsqu'elles appuient et soutiennent un lanceur d'alerte, elles puissent être reconnues elles-mêmes comme devant bénéficier d'une certaine protection face à des procédures bâillons par exemple, faire en sorte qu'elles s'épuisent devant des juridictions dans le cadre d'attaques en diffamation, par exemple, pour donner un exemple très précis. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas mélanger ce qui peut constituer une alerte de ce qui peut relever du statut de lanceur d'alerte. Après, pour les soignants, de toute façon, pour répondre aussi à la question plus précisément, en fait, l'alerte éthique, elle vaut dans tous les secteurs. Donc, on a aussi, la maison des lanceurs d'alerte a reçu des alertes dans le secteur de la santé, des alertes en termes de maltraitance, par exemple, ou de protection des données de santé. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que évidemment que des soignants qui alerteraient en faisant valoir des cas extrêmement graves des problématiques extrêmement graves au sein de leurs établissements pourraient, en fonction des faits, être reconnus comme lanceurs d'alerte. Ça dépend évidemment de la gravité des éléments en présence, est-ce qu'à ce moment-là, on peut considérer qu'elles avaient besoin ou non de respecter les paliers en fonction des difficultés. Donc c'est un peu difficile de répondre comme ça, c'est vraiment du cas par cas et c'est tout l'intérêt aussi d'une analyse juridique à chaque fois sur les dossiers.
Ouais. Et j'ai une autre question. Est-ce que vous trouvez que aujourd'hui on a vraiment la vague est plutôt dans les citoyens qui osent porter l'alerte ou des citoyens qui ont tellement peur parce que comme tu le disais Juliette, moi j'ai des camarades qui ont été emmenés au tribunal pour diffamation alors qu'ils sont soutenus par des syndicats aussi et parce qu'ils ont dénoncé ce qui se passait dans des maisons de retraite. La diffamation est quelque chose qui fait peur. Est-ce que vous voyez quand même que les gens osent et ils savent qu'ils vont avoir des embêtements, et ils savent qu'ils vont avoir des pressions, mais ils osent quand même pour l'intérêt général, ou est-ce que, je dirais, il y a encore ce combat à mener parce que derrière, il y a, bah oui, comme vous le disiez, soit des répressions, soit des licenciements, parce que même s'il y a licenciement et qu'au prud'homme, on retrouve son poste, il y a quand même c'est long le prud'homme, c'est au moins 15 jours, me semble-t-il, au moins, même avec un référé, au moins. Est-ce que les gens osent, sachant que derrière, ça peut être très dur, ça peut être vraiment le parcours du combattant, que même pour leur vie perso, familiale, ça peut être très dur à supporter, ou est-ce que, ceux qui ne veulent pas et ceux qui prennent le secret des affaires ont encore un grand pied sur la place et ça n'aide pas à ce que les gens aujourd'hui osent parler.
Voilà. Aujourd'hui, si on doit essayer, Juliette complétera, mais si on doit regardez la situation, il y a de plus en plus de citoyens ou de travailleurs qui osent, mais ils ne sont pas nombreux. De même qu'il y a 80 ans, il y avait dans les années 42-43, il y avait de plus en plus de Français qui se rapprochaient de la résistance ou qui menaient des actions de résistance. Ce sur quoi on travaille aujourd'hui, et c'est tout l'objet de la transposition de la directive, c'est de faire en sorte qu'ils soient de plus en plus nombreux à oser. Parce qu'ils osent aujourd'hui, mais ils ne sont pas assez nombreux, et ils ont peur, ils ont des peurs légitimes. Il est tout à fait compréhensible qu'un travailleur qui a peur de perdre son boulot, les prud'hommes, c'est souvent plusieurs années, ça traîne, et puis les prud'hommes, c'est la loterie. Ce n'est pas nécessairement la reconnaissance du bien fondé des arguments du travailleur. Donc, toute notre... On a eu, il y a quelques semaines, Juliette et ses camarades avaient organisé une réunion des lanceurs d'alerte Et moi, j'étais très étonné de voir à quel point on avait affaire à des honnêtes gens, à des gens bien, qui avaient pris le risque de mettre en péril leur carrière, leur vie professionnelle, leur vie personnelle, parce qu'ils considéraient que ce qu'ils avaient à dénoncer était plus important que leur histoire personnelle. J'étais très, très, très surpris par la force de caractère qu'il y avait chez ces lanceurs d'alerte. Donc aujourd'hui, nous, notre travail à la Maison des lanceurs d'alerte, et avec beaucoup d'autres organisations, à la fois celles qui ont fondé la Maison des lanceurs d'alerte, mais celles qui nous ont rejoints en cours de route, c'est de mettre en place une transposition qui va protéger le mieux possible les lanceurs d'alerte. Puisque derrière les grands noms que l'on connaît, qu'on a évoqué tout à l'heure, que Juliette a évoqué, il y a des centaines de lanceurs d'alerte anonymes qui mettent en péril, qui sont prêts à le faire, leur vie sociale, leur vie professionnelle, et c'est au bénéfice de tous. Donc pour nous, dans cette transposition de la directive, il faut absolument protéger les droits fondamentaux et garantir les libertés. C'est vraiment une nécessité absolue, et cette directive, c'est une opportunité, de construire un État exemplaire, parce que, effectivement, les entreprises ont des forces très importantes en termes de communication, en possibilité de licencier de manière abusive un salarié, mais tout un tas de possibilités de cacher les réseaux de corruption et d'aller contre l'intérêt général. Donc c'est fondamental pour nous dans cette deuxième phase. Le travail qui a été fait depuis bientôt 3 ans par la Maison des lanceurs d'alerte est considérable, mais on ne pourra avancer de manière efficace que si la France transpose de manière optimale cette directive européenne dans le sens essentiel de protection des lanceurs d'alerte, parce qu'il y a encore beaucoup, effectivement, de lanceurs d'alerte qui ont peur, et dans une période de chômage massif, on les comprend.
Si je peux compléter, effectivement, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Christian. Et ils ont peur et a raison parce que, par exemple, là récemment, j'ai dû intervenir dans le cadre d'une grosse alerte qui touche une très grande société française, intervenir pour devant la cour d'appel de Versailles, faire valoir que la personne qui était lanceuse d'alerte, avait bien accès au référé prud'homal, c'est-à-dire à une procédure d'urgence, pour pouvoir être réintégrée sur son poste, alors qu'elle a été licenciée de façon. Enfin, on voit, il ressort très clairement des faits que c'est consécutivement à son alerte. Et donc, ça montre bien que malgré le fait qu'on ait déjà un régime national censé être protecteur, eh bien, le Conseil des prud'hommes a considéré que effectivement cette personne était bien lanceuse d'alerte, mais a renvoyé au fond en refusant de reconnaître sa compétence en référé pour réintégrer cette personne, alors même que ça ressort clairement du dispositif légal que les lanceurs d'alerte peuvent se saisir du référé prud'homal. Donc ça montre bien qu'il y a des enjeux forts et qu'il ne suffit pas d'inscrire les choses dans une loi pour que, de toute façon, dans la pratique, les personnes aient vraiment accès, qu'il y ait une effectivité de ces droits. Mais c'est déjà une étape essentielle, nécessaire, comme l'a rappelé Christian. Et c'est pour cela que là, dans le cadre de cette nouvelle étape qui nous attend, la transposition de la directive, il faut absolument pas transiger avec les droits et libertés et avec effectivement ce devoir de protéger ces un peu objecteurs de conscience que sont les lanceurs d'alerte.
Et pour suivre de très près les questions juridiques pour le Syndicat national des journalistes et en assurer souvent la permanence juridique, il faut savoir que les prud'hommes réintègrent très rarement les salariés. Souvent, on considère que le licenciement est abusif. On donne, les prud'hommes décident de donner les indemnités ad hoc. Aujourd'hui, de manière très contrainte après la loi El Khomri, les ordonnances Macron, mais la réintégration d'un travailleur de licencié de manière abusive, elle est extrêmement rare aujourd'hui en France.
Oui, donc ce que vous dites, si je comprends bien, c'est que ce n'est pas parce que quelque chose est écrit dans la loi avec preuve concernant un dossier qu'il y a application du droit. Et comment vous l'expliquez au niveau des prud'hommes, que les prud'hommes finalement ne, alors que dans ton dossier, Juliette, comme tu nous l'expliques, il y avait clairement la preuve que le licenciement était dû au portage de l'alerte, Pourquoi est-ce que les prud'hommes, dans ce cas-là, n'appliquent pas ce qu'ils devraient appliquer? Pourquoi? Est-ce que c'est, je vais être peut-être un peu cru, mais est-ce que c'est la pression des entreprises? Pourquoi finalement?
Alors, dans ce cas précis, effectivement, en l'espèce, il y avait peut-être une connivence entre. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ça a été un des éléments qui a été mentionné par l'avocat du lanceur d'alerte. Mais sinon, c'est un dossier extrêmement intéressant parce que le défenseur des droits, sur demande de la maison des lanceurs d'alerte, enfin, qui a soutenu son intervention, s'est mis à intervenir à l'audience. La maison des lanceurs d'alerte est intervenue à l'audience. Et il y avait aussi bon, donc l'avocat de la lanceuse d'alerte et l'avocat d'un syndicat qui a soutenu aussi cette dernière et c'est vrai que donc ça c'était au stade de l'appel, mais c'est vrai que je pense qu'il y a plutôt, je dirais, un manque de formation de certaines formations de jugement et notamment du conseil des prud'hommes et c'est pour ça que quand on discutait on est intervenu avec Jean-Philippe Feugel qui est chargé de plaidoyer lui il est salarié de la maison des lanceurs d'alerte. On était intervenu à l'Assemblée nationale pour faire le bilan de la loi Sapin 2. On avait été auditionnés et c'est vrai que parmi les échanges qui étaient ressortis, c'était sans doute peut-être à terme d'avoir des formations spécialisées sur ces sujets-là parce que les enjeux sont forts, les parties en présence, il y a un déséquilibre des forces en présence parce qu'on peut avoir toute une institution qui n'a pas intérêt à conserver au sein de son enfin en son sein une personne qui peut finalement enfin faire sortir des irrégularités et donc nécessairement les moyens en présence ne sont pas les mêmes et c'est vrai que on avait vraiment discuter de ça, de l'importance de former les professionnels du droit, de les sensibiliser parce que la loi Sapin 2 est encore trop peu connue. Et donc là, avec la directive, on a aussi un enjeu de sensibilisation des acteurs pour vraiment diffuser cette culture de l'alerte et cette culture de la protection des lanceurs d'alerte qui sont essentiels dans notre société démocratique.
Alors vous allez peut-être trouver ma question complètement ubuesque, mais tant pis. Est-ce que, par hasard, vous arrivez à sensibiliser des entreprises sur le fait que c'est important d'avoir des lanceurs d'alerte, qu'il ne faut pas forcément en avoir peur quand on n'a rien à se reprocher, et que justement, c'est dans l'intérêt général de tout le monde. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont envie quand même d'être dans ce que vous défendez?
On le fait, mais pas de manière institutionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui nous a paru prioritaire, c'était de mettre en place une permanence juridique qui pouvait accueillir les lanceurs d'alerte et les aider dans leur démarche de lancement d'alerte. Si nous avions plus de moyens, si nous étions plus nombreux, l'idée est très bonne. Moi, je serais prêt à la mettre en œuvre. Et puis on pourrait faire le tour des chambres de commerce, des institutions patronales. Pour porter ce message. Moi, je le fais de manière individuelle parce que j'ai quelques amis chefs d'entreprise et on en parle régulièrement quand je leur dis que je suis un des membres du conseil d'administration de la Maison des lanceurs d'alerte. Mais je dirais que si ce sont mes amis, je les ai choisis et souvent, ils en savent autant que moi et autant que moi, ils ont cette conscience de la nécessité des entreprises citoyennes. Donc, je ne prêche que des convaincus. L'idée, ce serait effectivement d'avoir les moyens de le faire et d'expliquer que c'est l'intérêt des entreprises, de ne pas se lancer dans des répressions contre les lanceurs d'alerte. Certains de ces chefs d'entreprise amis dont je parlais m'ont même dit, si tu as un bon lanceur d'alerte dans quelle catégorie professionnelle, nous on est prêt à le prendre parce qu'on pense que ça va assainir l'ambiance. Mais là aussi, ils sont très minoritaires, comme les lanceurs d'alerte. Mais l'idée me paraît excellente et dans un deuxième temps de la vie de la Maison des lanceurs d'alerte, si on pouvait la mettre en œuvre, ce serait une belle ambition.
Oui, tout à fait, je suis absolument d'accord. Alors, il y a quand même des cas où les personnes lancent l'alerte et ça se passe bien, ils ne sont absolument pas victimes de représailles, ils restent au sein de leurs entreprises. Par contre, il y a une forme de frustration parce que, bon, évidemment, vous vous doutez bien que les personnes qui sollicitent la maison des lanceurs d'alerte, c'est qu'à un moment, il y a un problème. C'est que elles ne sont pas représentatives nécessairement de l'ensemble des lanceurs d'alerte. On imagine que quelqu'un qui, pour qui tout s'est bien passé, l'entreprise a solutionné la problématique et finalement a reconnu que celui-ci avait bien fait son travail, etc., et avait bien fait de signaler les faits, il ne va pas nécessairement solliciter la maison des lanceurs d'alerte. Donc déjà, il y a peut-être un biais. Cependant, donc pour les personnes qui ne sont pas victimes de représailles, et on en a quelques-unes qui ont sollicité la maison des lanceurs d'alerte, il y a une forme de frustration parce que, certes, il n'y a pas de représailles, mais il n'y a pas de traitement de l'alerte. C'est-à-dire que les faits se poursuivent dans l'indifférence, ce qu'on fait valoir, c'est qu'on leur envoie 50 demandes, des mails, il y a besoin de relancer 500 fois, on se rend compte que finalement, 6 mois plus tard, ils ont à peine ouvert le dossier, à peine commencé à régulariser la situation. Et donc, c'est plutôt cette frustration de se dire, mais mince, j'ai constaté que ce produit avait été, il y avait un dysfonctionnement sur les normes sanitaires de ce produit, par exemple, sur les normes techniques de tel dispositif. J'ai signalé à mon employeur, et en effet, j'ai signalé aux autorités, eh bien, ça traîne, je n'ai pas de réponse, à peine j'ai été notifiée de la réception de mon alerte, mais comment je fais maintenant? Oui, je suis pas victime de représailles, mais comment je fais pour que ça cesse? Parce que derrière, c'est les consommateurs qui utilisent ce dispositif qui en pâtissent, qui ont des risques sur leur santé ou qui finalement payent le prix fort d'un produit qui n'est absolument pas nécessaire. C'est plus ça. Et c'est vrai que notre travail, c'est aussi de les accompagner là-dedans. Et nous, la Maison des lanceurs d'alerte, en tant qu'institution qui a une force symbolique, morale importante, parce qu'elle est coportée par un conseil d'administration avec des syndicats, des représentants de différentes associations dans les libertés fondamentales, eh bien, c'est vrai que quand cette association-là va toquer à la porte d'une autorité pour lui dire « attention, ce dossier est très sensible. Attention, là, il y a des vrais risques. » Eh bien, l'idée, c'est que les autorités réagissent plus rapidement, se saisissent de l'affaire le plus rapidement possible. Donc, voilà.
C'est extrêmement intéressant. Et donc, on va quand même si on pourrait discuter des heures tellement c'est intéressant. Donc, pour vous, ce qui serait extrêmement important, c'est déjà que la directive soit transposée. Je ne connais plus du tout, Juliette, excuse-moi, le terme exact juridique, mais soit transposé dans le droit national. Moi, j'appelle ça comme ça. Mais est-ce que vous pensez qu'il est encore possible d'améliorer les choses, ou est-ce que, de toute façon, à un moment donné, elle sera transposée et on ne pourra plus, amener des éléments supplémentaires sur la protection des lanceurs d'alerte et tout ce pourquoi vous vous battez? Est-ce qu'il y a encore la possibilité d'améliorer?
Si on ne pensait pas qu'on peut améliorer les choses, on ne serait pas dans cette période de pression maximale. Il y a eu une tribune dans Libé hier, il y en a eu d'autres ailleurs. On fait tout un travail de plaidoyer parce qu'on pense qu'on peut atteindre ce but. Il y avait un slogan de la Loterie Nationale, mais vous êtes jeunes toutes les trois, vous n'étiez pas sans doute très, très grande pour vous en souvenir, c'était 100% des gagnants ont joué. Là, si on ne pensait pas qu'on pouvait améliorer la directive et que sa transposition pouvait être ambitieuse, on ne se mobiliserait pas pour le faire. Donc il y a encore une marge. Et c'est très important dans les mois qui viennent, pour autant que la date de transposition ne soit pas repoussée. Je ne sais pas qu'est-ce qui est possible. On va peut-être trouver des arguments qui sont liés au confinement, etc. Mais on considère que là, on est dans la dernière ligne droite et qu'il faut absolument mettre la pression maximale pour que cette transposition soit faite de la meilleure manière possible, c'est-à-dire de manière vraiment ambitieuse, pour que ce dispositif de protection des lanceurs d'alerte soit le plus efficace possible.
Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le combat peut encore continuer et être amélioré. Et maintenant, il ne tient qu'à nos collègues députés de l'Assemblée nationale, puisque malheureusement, je n'étais pas députée européenne quand cette directive a été faite au Parlement européen. Mais finalement, il ne tient qu'à nos collègues députés de l'Assemblée nationale de prendre ce sujet aussi en main. et de porter aussi en améliorant toujours plus la protection des lanceurs d'alerte. Je pense que ça, comptez sur nous aussi pour, en tout cas, à travers mon groupe, le répéter et le répéter encore parce que pour nous, en tout cas, pour moi, à titre personnel, les lanceurs d'alerte sont des perles rares, des gens qui œuvrent pour le bien commun, l'intérêt général. Et à mon sens, il est extrêmement important de les protéger. Peut-être que vous aviez encore quelque chose à rajouter. Peut-être qu'on mettra sur, si vous êtes d'accord, on remettra vos coordonnées sur le podcast pour que les gens, eh bien, parce que je suis persuadée qu'il y a encore plein de gens qui ne vous connaissent pas et qui seraient contents d'avoir vos conseils. Peut-être vous avez d'autres choses à rajouter qui vous paraissent importantes. Comment est-ce que même nous, au Parlement européen, on peut continuer à vous aider? Comment on peut continuer à porter ces questions? Voilà, je vous laisse conclure.
Merci Anne-Sophie. Pour conclure, juste inviter les personnes qui seraient intéressées à aller sur notre site internet pour trouver les propositions concrètes pour la transposition de la directive à Maxima, comme l'a rappelé Christian. Donc, il y a toute une. Je laisserai les personnes intéressées regarder, mais c'est vraiment clarifier les autorités en charge de traiter les alertes, prévoir une immunité pénale pour l'obtention d'informations confidentielles, offrir un accès facilité au statut de réfugié pour les personnes qui lancent l'alerte de l'extérieur, faciliter les procédures d'urgence pour les agents publics, créer un fonds de soutien pour aider financièrement donc les personnes qui payent les frais en étant licenciées et se retrouvent donc sans emploi pour avoir simplement lancé l'alerte. Donc bref, il y a toute une palette de propositions. Et donc, voilà, au nom de la Maison des lanceurs d'alerte, je peux simplement vous inciter à aller regarder ces propositions et si vous le souhaitez, à y adhérer, à les diffuser autour de vous, à diffuser ces enjeux, ces questions-là, parce que je pense que c'est essentiel. Et demain, je ne sais pas qui sont exactement les personnes qui écoutent ce podcast, mais ça peut être effectivement quelqu'un de leur famille ou même eux-mêmes qui seront confrontés à ce dilemme de cette option d'alerte, parce que oui, je risque, je lance l'alerte quitte à en payer le prix fort. Parce que ça m'est trop difficile de vivre dans enfin de laisser perdurer cette situation irrégulière, attentatoire au respect de la loi, au respect du règlement. Et donc, je pense que c'est essentiel en tant que citoyen, en tant qu'individu, de se sentir concerné par la protection des lanceurs d'alerte, parce elle touche tout le monde. Elle peut nous toucher individuellement si demain on est confronté à une alerte, mais de toute façon, elle nous touche même indirectement parce que les lanceurs d'alerte agissent dans le bien pour assurer enfin, dans le bien des autres citoyens, pour assurer leur santé, pour assurer la réduction des risques environnementaux, pour limiter la corruption. Enfin, j'en ai pas parlé, mais c'est trop tard, on doit conclure, mais c'est très intéressant.
Non, non, vas-y, Juliette. Juliette, si tu veux en parler, tu peux en parler, hein. Moi, ça ne me dérange pas du tout, vas-y, hein.
Bah, c'est extrêmement large, mais il y a des statistiques, on a publié des statistiques, mais vraiment les lanceurs d'alerte aujourd'hui qui contactent cette association viennent de différents secteurs, que ce soit maltraitance animale, maltraitance sur les personnes, racisme, discrimination au sein d'institutions, au sein de leur entreprise, corruption, fraude fiscale, manquement aux réglementations en matière environnementale, manquement aux réglementations urbanistiques, donc ça va aussi avec l'environnement en général, problématique de non-respect de normes techniques, de normes sanitaires. Enfin, c'est vraiment extrêmement large et tout ça, en fait, ça va dans améliorer l'état de la société actuelle, l'état de la santé. Enfin, œuvrer pour la santé publique, pour la lutte contre la fraude et contre la corruption. Donc, nécessairement, ça touche en fait largement la société. Voilà.
Oui, pour compléter et peut-être conclure, mais je pense que si une fois que vous avez lu ou pas lu, parce que vous pouvez être convaincu dès la fin de ce podcast, que si vous avez le sentiment que le combat de la Maison des lanceurs d'alerte est juste, eh bien, venez lutter à nos côtés parce que nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin de compétences. Je dirais que l'acte d'un lanceur d'alerte, c'est un acte de fraternité, c'est-à-dire que ça consiste à alerter ses concitoyens sur un danger qui les menace, tous ou quelques-uns d'entre eux. Donc je pense que c'est une démarche de fraternité de rejoindre le combat de la Maison des lanceurs d'alerte. Voilà, et merci pour votre initiative de nous avoir invités.
Surtout pour la diversité.
Merci à vous, Juliette et Christian, parce que je pense important aussi de montrer tout le travail qui est fait par la Maison des lanceurs d'alerte. Moi, je vous connaissais un peu avant parce que j'ai des connaissances qui vous connaissent aussi. Et j'invite vraiment tout le monde à aller sur, en tout cas on le mettra sur le podcast, mais à aller sur votre site, à aller voir ce que vous défendez. Je pense qu'on pourra conclure comme ça en disant que peut-être un jour nous serons tous, qui sait, un lanceur d'alerte et on sera bien content de trouver des gens comme vous qui sauront nous protéger pour que l'alerte qui est faite dans le bien commun et l'intérêt général puisse être portée au plus haut niveau pour le bien de tout le monde. Voilà, je vous remercie en tout cas. Et moi, je vous donne aussi rendez-vous un jour où je viens à Paris. Je serais ravie de venir vous voir et de continuer cette discussion et de voir avec vous comment au Parlement européen, on peut encore continuer à porter ce projet, parce que des fois, on a tendance à oublier aussi que les lois, elles se décident au niveau européen et elles sont après transposées en France. Mais c'est souvent le Parlement européen, la Commission et le Conseil qui nous dictent des choses. Et nous, à nous aussi de mettre notre patte citoyenne pour que justement, ce ne soit pas simplement des technocrates en col blanc, mais des gens qui s'intéressent aux gens. Voilà. En tout cas, merci à vous.